Allons-y, allons-y, on profite.
11h30. Laurent Mariotte sur Europe 1.
Bien le bonjour, amis bons vivants, et bonne année, bonne santé, comme la santé passe aussi par notre alimentation. On va continuer, vous pensez bien, en 2019, à vous aider à bien choisir et à cuisiner facilement au quotidien. Ça se passe tous les samedis, de 11h à midi et demi sur Europe 1. C'est la table des bons vivants, et elle est bien mise ce samedi matin encore, cette table. Ils ont fini l'année en beauté, ils reviennent avec des conseils affûtés, les bons vivants sont avec moi. Elle est allée explorer les trésors de la Scandinavie, elle nous dira si elle a pêché de bons saumons. Anne-Laure Femme est avec nous. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour à tous et je dis skål, c'est-à-dire santé norvégien.
Mais, oh, c'est beau, vous êtes revenu avec un mot quand même, bravo.
Au moins un.
C'est bien. Sa bonne résolution de 2019 est la même que celle de 2018. Nous aider à choisir les bonnes bouteilles. Olivier Poulx s'est attablé. Bonne année Olivier.
Eh bien, bonne année cher Laurent, bonne année tout le monde et santé en français, hein, ça va aussi.
Exactement.
Ça me va très bien.
On est bilingue.
On va lever notre verre et puis espérons que cette année soit gourmande.
Marion Sauveur nous rejoindra dans un instant pour le journal de la cuisine et Jean-Luc Petit-Renaud reviendra sur nos bonnes intentions qui tombent souvent à l'eau après les fêtes, c'est bien vrai. 2019, les amis, année du panais. Ce samedi, nous vous emmenons récolter et cuisiner ce légume racine qui nous veut du bien, beaucoup de bien, vous entendrez. Pas de nouvelle année, évidemment, sans galette des rois. On fera le tour de la galette avec le pâtissier Camille Le Sec, et pas des moindres, vous entendrez. C'est vraiment un pro de la galette. Et à partir de midi, nous accueillerons un comédien amateur de bonne chère, bon vivant parmi les bons vivants. François Berléand viendra couper la galette avec nous. À table, les amis. Eh ben, dites donc, je sais pas si on aura assez d'une heure et demie pour faire tout ça, parce qu'on a du boulot. Hein.
On va y arriver.
Il y a du pain sur la planche.
Une galette à fabriquer, la pâte feuilletée, on va tout vous expliquer, le panais à les récolter. Alors chaque samedi, vous le savez, nous commençons par le goût de la semaine. 2019 a commencé. Et ce samedi, ben, j'ai envie de dire, c'est le goût des bonnes résolutions, hein, des bons goûts pour bien démarrer l'année. Quel est votre goût de la semaine, Anne-Laure Femme?
Alors moi, le goût de la semaine, ce serait celui de la tomate d'industrie, c'est-à-dire celle qu'on mange tout le temps mais qu'on ne voit pas, qui est dans les concentrés de tomates, dans le ketchup ou sur les pizzas industrielles. Et j'ai adoré, j'ai dévoré un bijou d'enquête signé Jean-Baptiste Mallet qui s'appelle L'Empire de l'or rouge, enquête mondiale sur la tomate d'industrie, et ça révèle les rouages d'un marché très opaque et peu reluisant sur ce produit phare qu'est le concentré de
tomates. C'est un livre qui est sorti il y a un moment, ça.
C'est sorti il y a un moment, sauf que c'est sorti en poche là, à cette fin 2018, et vous avez... Il est vraiment abordable. Pour 7,40€, vous avez quand même une somme de connaissances considérable.
Je
c'est
l'ai
génial.
Lu. Quand on lit ce livre, c'est vrai qu'on n'a plus envie d'ouvrir une boîte de concentré de tomates. Et on fait très attention aux coulis qu'on va acheter. C'est vrai qu'il vaut mieux privilégier les coulis artisanaux, les bocaux, les choses faites en mode bio, parce que c'est un vrai business, ce concentré de tomates.
Surtout qu'en Italie, les choses ne sont pas très claires.
Ah non.
Parce que c'est aux mains de la mafia et bah, y a des dérives, de l'esclavage moderne et des choses pas très éthiques.
Et des cochonneries au niveau sanitaire et hygiène dans ces concentrés. Donc, encore une fois, regardons ce que nous achetons. Olivier Poulx,
vous... Ben ça commence fort.
Ça vous plaît pas, ça, ce goût de la semaine.
C'est une bonne résolution.
Olivier Poulx, votre goût de la semaine à vous.
Non, mais il est plus optimiste, je vous rassure.
Ben, j'espère.
Ben, moi, je suis allé... Ben, c'est à l'opposé de ça, figurez. Moi, je suis allé rencontrer en Bourgogne un jeune éleveur à la ferme de Clavisy, il est dans l'Yonne. Et je voulais saluer au travers ce personnage, il s'appelle Guillaume Verdun, tous les petits éleveurs qui s'accrochent, qui continuent à vouloir se battre, à faire du travail de qualité, justement, loin de ces tomates industrielles. Il élève ses bêtes, des agneaux, des veaux, un peu de bœuf de temps en temps. Il se lève très tôt le matin, 365 jours par an, parce qu'il n'y a pas de vacances dans ce métier-là.
Bien sûr.
Il se bat, c'est grâce à des gens comme ça que nos paysages sont conservés, qu'on a de la bonne viande dans
Exactement.
Nos assiettes. Il fournit des restaurants qui commencent à reconnaître d'ailleurs ses qualités. Et voilà, trois fois par semaine, au volant de sa camionnette, à 3h du matin, il part livrer ses clients. Voilà, je voulais, c'est mon goût,
vous
et je voulais
bien.
Encourager ces gens-là qui, franchement, doivent être défendus.
Et à l'heure où on tague certaines vitrines de bouchers qui sont même éleveurs parfois, c'est bien de soutenir nos éleveurs et nos beaux bouchers qui font du bon boulot aussi, parce qu'on mange de la très bonne viande en France, et on va continuer à le faire, même s'il faut manger moins souvent, mais de meilleure qualité.
Ce sera notre résolution.
Exactement.
Mangeons-en moins, mais mieux.
Mon goût de la semaine, moi, c'est le thé vert. Regardez.
Je vois que depuis ce matin,
c'est très raisonnable c'est sur votre
ce
table.
Ce serait pas le lendemain de fête, par exemple, qui vous aurait emmené à ce goût de fête.
Je vais tenter le dry January, vous savez, cette tendance qui
on
consiste...
On vous croit pas,
ben c'est ma bonne résolution, je vais essayer de ne pas boire d'alcool le mois de janvier. Pour l'instant, je tiens, on en a quelques jours, et je me suis mis au thé vert.
C'est dommage, parce que j'avais justement apporté un
truc. On verra si je tiens.
On va se le boire à deux.
Le thé verts Matcha Sencha, c'est un mélange de deux thés verts emblématiques du Japon. C'est le palais d'été qui fait ça. François-Xavier Delmas parcourt le monde à la recherche des meilleurs thés. C'est un mélange de poudre végétale et de feuilles de thé. Il y a de la fraîcheur, il y a une petite amertume. Et comme on dit, ça remet le facteur sur le vélo pour démarrer l'année.
C'est quoi
ça.
Comme poudre végétale, Laurent ?
C'est la poudre végétale, c'est le thé vert matcha, tout simplement.
Juste du thé vert matcha.
Thé vert matcha et
d'accord.
Feuilles de thé vert Sencha.
Vous nous en préparez une petite, tournée ?
Bah, carrément, un carafon. C'est l'heure d'aller au marché, comme tous les samedis après 11h. Alors, direction le marché de la place Victoire à Asnières-sur-Seine. C'est vrai qu'après l'opulence du réveillon, vous faites une grande place, amis auditeurs, aux légumes et aux fruits de saison. Ça sent les lendemains de fête, tout ça.
Le repas de fête a été copieux. Fruits de mer, gigots d'agneau, je ne sais combien de desserts. Je vous avoue qu'après les fêtes, je fais beaucoup de soupe. Là, j'ai acheté des poireaux, des pommes de terre, du potiron.
Avec ceci.
Et je vais prendre des carottes. Les plus grosses, si vous avez.
Je vais manger un peu plus de légumes que d'habitude. Ce matin, j'ai pris un pamplemousse, un avocat. Et j'ai prévu pour ce soir de manger des topinambours.
C'est vrai qu'on aura tendance à manger peut-être un peu moins de viande et plus de légumes.
De la salade pour un petit peu manger un peu plus léger que tout ce qu'on a mangé depuis 15 jours en fait, tout simplement.
Des pommes 1,50€, t'es seulement les belles pommes là, messieurs dames là.
Non, les fêtes continuent encore pour moi, j'ai encore plein d'amis qui vont venir à la maison, donc non, j'ai encore pris pas mal de choses. Je pense qu'on va arrêter les pommes de terre, les fromages, parce que je reviens de la montagne là, donc on arrête.
Nous on s'arrête jamais, c'est juste qu'on fait un peu attention, on fait du sport à côté, la bouffe c'est une religion chez nous, donc on en profite.
Et voilà,
merci.
Bonne année à vous.
Merci également, au revoir.
Bonne année, au revoir madame, n'oubliez pas votre monnaie. Hein. Surtout une belle religion, effectivement, la nourriture, les bonnes tables, une religion que nous partageons ici. Et elle sera partagée par le père Petit Renaud, vous entendrez tout à l'heure.
Oui, alors vous savez, ces résolutions qui tiennent 3 jours
oui,
en réalité, c'est ça. Hein.
C'est ce qu'il nous dira tout à l'heure. Et pour vous remettre en forme aussi, pensez aux agrumes. Hein. Mandarine, clémentine, orange sanguine riment toujours avec vitamines. C'est pas compliqué, c'est facile à retenir ça. Hein.
Et oui, comme ça vous les couplez avec des jus de légumes par exemple. Si vous avez un extracteur de jus, c'est parfait pour reprendre un petit peu d'énergie.
Oh, les bonnes
Dry
résolutions,
hein.
on est bien parti. On garde le cap végétal et on revient tout de suite avec un légume racine bon marché, facile à cuisiner. C'est le pané, mes amis. A tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à midi et demi, vous êtes invité à la table des bons vivants avec Laurent Mariotte. Et d'ailleurs, vous pouvez participer. On a changé d'année, mais pas de répondeur sur Europe 1. C'est toujours le 39-21 qu'il faut faire pour nous laisser toutes vos questions.
Bienvenue et bonne année hein, si vous nous rejoignez à la table des bons vivants. On vous souhaite tout le bonheur du monde dans l'assiette et ailleurs. Et alors attention, c'est incroyable, 2019, année du pané.
Officiel.
Mais oui, c'est
ça
officiel.
Ne rime, ça ne rime pas, mais on aime bien.
Mais oui, c'est l'année du pané. Très parfumé, riche en fibres et bon pour la santé. Vous savez, on dirait une grosse carotte blanche. Le pané fait partie des légumes oubliés que nous avons retrouvés depuis quelques années déjà. Et moi, je dois vous dire que j'adore ça, le pané. Anne-Laure Femme.
J'adore ça aussi. Alors moi, ce qui m'épate, c'est que c'est soit on aime, soit on déteste, j'ai l'impression, le pané. Hein. Ça ne supporte pas le consensus.
Mais alors, vous avez raison, on va vous donner des petits trucs justement pour l'amadouer, pour l'apprivoiser, parce qu'il ne faut pas rester sur des idées reçues.
C'est vrai, mais moi, je vous dire, je suis pas un grand fan du pané.
Eh ben alors on va essayer de vous en
non,
faire manger.
Non, je trouve que c'est légumes oubliés. Souvent, on sait pourquoi on les
non,
a oubliés.
Alors, ça, je suis contre. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas entendre des choses pas.
Olivier.
On l'a souvent confondu d'ailleurs au Moyen Âge avec la carotte, parce qu'au Moyen Âge,
objectivement, ça ressemble à une carotte moche et palichonne.
C'est ça, exactement. La carotte était blanche au Moyen Âge. Alors, il est plus pointu que la carotte. Il possède un cœur un peu plus fibreux. Et on va vous emmener le récolter chez Laurent Berrurier à Neuville-sur-Oise, dans le Val d'Oise. C'est un agriculteur maraîcher que j'aime beaucoup. Je suis allé plusieurs fois lui rendre visite. Il cultive plus de 60 variétés de légumes. Le chou de Pontoise, le navet de Croissy, l'épinard grande feuille. Il fournit de nombreux chefs de la capitale, dont Yannick Aleno. Et cette fois-ci, c'est Marion Sauveur qui a chaussé les bottes pour aller récolter et cuisiner Laurent Berrurier sur le pané.
Alors là, sous nos pieds, on a le pané, qui est une plante racinaire. Là, on va en arracher un.
Allez, on y va.
Donc on passe un petit coup de bêche. Et le voilà.
Il est gros hein, quand même.
C'est à peu près une racine qui fait 7-8 cm de diamètre et qui fait à peu près 20 cm de long.
Comment on le choisit sur le marché, le pané ?
Déjà, l'extrémité, il faut toujours que ça ne soit pas cicatrisé. Donc si c'est coupé récemment, ça reste bien blanc. Et le pané, il doit rester quand même assez brillant. S'il commence à ternir un petit peu, à devenir un petit peu marron, il y a un petit doute sur la fraîcheur.
Voilà. S'il a quelques racines comme celui-là sur le pourtour ?
C'est pareil, c'est un gage de fraîcheur.
Une fois qu'on l'a choisi, on le conserve comment ?
Toujours au frais. Les légumes toujours au frais, en principe dans le bac à légumes du frigo, hein, et pas à l'air.
Ouais, une semaine.
Oui, une semaine, ça passe très bien.
Est-ce qu'on le goûte quand même cru pour voir quel goût il a ?
Bon, on va essayer. Ouais, c'est pas mal. Un petit goût de arrière de céleri.
On a le croquant de la carotte, hein.
Ouais. Ah oui, bah ça oui. Ouais, c'est pas mal.
Ouais, c'est très doux.
Non, il nous manque juste Laurent avec une petite sauce et puis ça serait pas mal.
Bah là, voilà la petite sauce, Laurent Berrurier. Et merci à Marion d'avoir chaussé les bottes pour récolter ce joli panais. La petite sauce, c'est vrai que c'est agréable de le déguster cru comme ils viennent de le faire à la fin du reportage. On n'y pense pas assez, mais juste râpé avec des carottes et même des carottes multicolores comme on en trouve en ce moment sur les étals. Une petite vinaigrette avec de la clémentine. Vous remplacez simplement le vinaigre par de la clémentine et cette petite note acidulée, elle va bien emballer le panais comme ça. Essayez vraiment, vraiment cru. Et je vous ai fait aussi une purée de panais parce qu'il faut vraiment le cuisiner en purée. C'est hyper facile.
Délicieuse.
Vous allez me dire ce que j'ai mis avec, tiens, si vous avez retrouvé le goût.
Il y a un peu de crème, mais là, je m'y risque.
Très peu, bon, allez, très peu de crème.
Parce que c'est vous, je mange du panais.
Mangez du panais. Ouais. Et une cuillère pour papa, Olivier Pouls.
J'avoue que c'est bon.
Ah.
J'avoue que c'est bon.
J'ai mis un fruit avec.
Oui, c'est légèrement acidulé là aussi.
Oui, pas, ouais, elle est un peu acidulée. C'est de la poire.
Ah oui.
J'ai mis une poire, 300 grammes de panais et une poire. On retrouve le petit côté un peu granulé de la poire.
Ça fait un écho au panais qui a un petit goût de poire.
Mais c'est pour
aussi,
ça que j'aime
parfois.
Le panais là, comme ça.
Voilà,
la poire, elle aide beaucoup.
Avec une viande blanche, ou je ne parle pas de l'alcool de poire, je parle du fruit.
Voilà, j'ai bien compris.
Avec une viande blanche, une viande rouge ou un gigot d'agneau, ça marche très bien. Donc redécouvrez le panais, c'est vraiment facile à cuisiner.
Et d'ailleurs, pour les gens comme Olivier qui n'aiment pas le panais, il faut toujours penser à penser un peu le côté très terreux, très prononcé de certains panais. Hein. C'est un peu la loterie, les panais. Hein. Parfois, ils vont être très doux, sucrés et parfois, ils vont quand même être un petit peu durs.
Il ne faut pas les choisir trop gros, déjà. Il faut les choisir moyens. S'ils sont trop gros, ils sont fibreux et ils peuvent développer, effectivement...
Comme beaucoup de légumes, d'ailleurs. Il y a plus de goût dans les petits légumes que dans les gros.
Exactement.
Et du coup, compléter ce côté terreux, le compenser avec la carotte, l'orange aussi... Ça permet vraiment d'avoir un ensemble un peu plus harmonieux.
Et je vous mettrai une recette aussi sur notre site de purée de panais avec de l'huile et des graines de sésame. Une petite huile de sésame que vous mettez au dernier moment. Le panais, vous le faites revenir comme ça avec un petit peu d'ail, un petit peu d'huile d'olive. Mmh. Un bouillon de légumes, par exemple, pour le cuire. Ouais. Vous le mixez, un chouïa de crème, une huile de sésame et quelques graines de sésame torréfiées par-dessus.
Ah oui,
vraiment,
parfait.
Redécouvrez le panais. Il ne faut pas rester sur des idées reçues. C'est comme le chou de Bruxelles, c'est comme l'épinard.
Vous pouvez aussi faire des chips de panais ou des frites de panais, d'ailleurs.
Ah, bah vous voyez que vous y venez.
Mais c'est vrai, des frites de panais au four, hein, tout simplement, ça marche très bien. Alors, on a le côté croustillant qui peut être assez intéressant tout en gardant beaucoup de concentration de goût.
Et puis c'est, voilà, c'est pas gras, donc ça fait partie des bonnes résolutions de l'année aussi.
Un peu
aussi,
plus gras, c'est les chips, hein, vous les tranchez très finement à la mandoline et puis tac dans une huile bouillante pendant... quelques instants, dès qu'ils remontent, qu'ils sont croustillants, vous servez.
Au four, c'est très bien aussi. Hein. Moi, je le fais régulièrement.
Aussi
ça passe nickel.
Comme les belles frites Pont-Neuf qu'on trouve à Paris. Hein, une boutique qui fait de très belles frites. On vous engage
à manger d'authentiques frites de pommes de terre.
Qu'est-ce qu'on boit pour accompagner le panais qui est très parfumé, Olivier Pouls?
C'est un vin blanc. Là, pour le coup, vous savez, les tanins des vins rouges avec ce type de légumes un peu terreux, ça donne d'ailleurs au vin un goût un petit peu terreux quand vous avez des vins rouges. Donc, forcément du vin blanc, plutôt sec, pas trop boisé. Allez, on pourrait aller dans la Loire, par exemple, avec un Sauvignon qui a ce côté un peu végétal aussi. Et je pense que là, on devrait avoir quelque chose qui ne va pas dénaturer le panais. Et surtout, le panais ne va pas dénaturer le vin.
N'oubliez pas aussi que vous pouvez mettre du panais dans le pot-au-feu. Hein. C'est la saison du pot-au-feu. Il faut se réchauffer avec un bon pot-au-feu. Le panais a sa place vraiment dans ce beau plat traditionnel. Et puis, pensez aux cocottes de légumes oubliés, du panais, du topinambour,
des légumes racines,
les rutabagas.
Un fousitou, comme on dit.
Un fousitou, exactement, en cocotte ou alors dans un plat gratin au four avec une belle huile par-dessus. Trois quarts d'heure, une heure, c'est magnifique à 180 degrés. Ben voilà, ne bougez pas, on revient dans un instant avec le journal de la cuisine de Marion Sauveur. Ce sera le premier de l'année et l'actualité 2019 commence fort dans nos assiettes, vous allez entendre. A tout de suite sur Europe 1.
Tout le monde est là ce samedi à la table des bons vivants pour bien commencer l'année gustativement, n'est-ce pas Laurent ?
Absolument Justine, les bons vivants sont réunis autour de la table et vous êtes ici chez vous, hein, vous pensez bien. Olivier Pouls et Anne-Laure Femme sont avec moi, nous retrouverons Jean-Luc Petit-Renaud dans quelques instants. Mais juste avant, c'est l'heure d'accueillir Marion Sauveur. Bonjour Marion.
Bonjour à
tous.
Bonne
année Marion.
Bonne année,
Marion.
Meilleurs voeux.
Et bonne année, une année importante hein, pour vous. Voilà, on n'en dira pas plus mais c'est une très belle année. C'est un teasing comme ça. Demain c'est l'épiphanie. Pour tirer les rois, on a invité un prince de la galette, on vous en parlera tout à l'heure. Mais juste avant, on va commencer par les titres du journal de la cuisine, Marion.
Ne pas consommer de viande ni de poisson tous les lundis de l'année pour l'environnement, c'est l'appel lancé cette semaine par 500 personnalités. C'est demain l'épiphanie, l'occasion de manger une bonne galette des rois. Et comme chaque année, de grands chefs proposent leur galette du cœur vendue au profit d'une association. Et les vins étrangers ont beaucoup de succès en France, c'est ce qui ressort d'un récent sondage.
Le lundi, donc maintenant, c'est sans viande ni poisson. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
C'est ce à quoi s'engagent 500 personnalités comme les actrices Juliette Binoche, Ingrid Chauvin, Isabelle Adjani, le comédien Samuel Le Bihan, l'humoriste Christine Berrou ou encore le chef étoilé vegan Alexis Gauthier. Ils ont signé une tribune cette semaine pour un lundi vert en 2019. L'objectif est de modifier notre comportement alimentaire pour défendre l'environnement et l'éthique animale notamment. L'opération est soutenue par plusieurs ONG comme Greenpeace ou Sea Shepherd. Cette campagne reprend le modèle du Meatless Monday, le lundi sans viande, lancé en 2003 et repris dans une quarantaine de pays. Si vous voulez vous aussi vous engager, faites-le savoir sur lundi-vert.fr.
Bah pourquoi pas, mais déjà mangeons déjà un petit peu de tout pour nous et pour préserver la planète et ce sera déjà très bien. Régis Marcon, un grand chef distingué.
Oui, le chef triplement étoilé de Haute-Loire et président du Bocuse d'Or France vient d'être promu au grade d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Autre décoration pour le président de l'Académie nationale de cuisine, Jean-Marc Montpart, et la chef étoilée Biarrotte, André Rosier, nommés tous les deux au grade de chevalier de la Légion d'honneur.
Bravo! Un chef étoilé va fermer son restaurant gastronomique pour vendre des burgers.
Et oui, c'est la décision de Dani Garcia, un chef espagnol installé à Marbella en Andalousie. Son restaurant est devenu en novembre dernier le 11e d'Espagne à obtenir les 3 étoiles au guide Michelin. Et pourtant, le chef a annoncé vouloir fermer le 22 octobre prochain pour transformer son restaurant en une steakhouse où il vendra des hamburgers.
Ah oui,
il a tout simplement envie de créer des concepts à 15 ou 20 euros.
Bon, on peut être sûr qu'ils seront bons parce que vu son parcours, on est rassuré. Demain, on va tirer les rois.
Et oui, ce sera donc l'épiphanie, le jour de la galette. Et pour ceux qui ont d'ores et déjà envie de prendre de l'avance, des grands chefs pâtissiers proposent leurs galettes dès ce matin à Deauville, Nice, Chambéry, à Paris, place de Saint-Germain-des-Prés. Des galettes du cœur qui sont vendues au profit intégral de l'association POAC, des victimes d'une maladie orpheline très invalidante, les pseudo-obstructions intestinales chroniques. Et si vous voulez réaliser votre propre galette des rois, je vous renvoie au livre Galette, tout simplement, signé Christophe Felder et Camille Le Sec aux éditions de La Martinière. Et vous recevrez justement le pâtissier Camille Le Sec dans quelques instants, Laurent.
Absolument, elle va être bien faite la galette. Vous allez entendre et vous pourrez la refaire à la maison. Les vins étrangers ont de plus en plus la cote, Marion.
57% des Français qui boivent du vin consommeraient des vins produits à l'étranger, d'après un sondage Opinionway. Les Parisiens sont ceux qui boivent le plus de vins produits hors de France et notamment du vin italien. Selon l'étude, les Français privilégient les vins des pays limitrophes. Les Corses boivent donc en majorité du vin italien. Dans le sud-ouest, on apprécie particulièrement le vin espagnol. Et dans l'est, on achète du vin en provenance d'Allemagne.
Tout ça est assez logique, en fait.
C'est ça. Hein,
voilà, on joue la région limitrophe. Merci beaucoup, Marion Sauveur. Et à tout à l'heure. Alors, demain, c'est l'épiphanie, vous venez de le dire. Pour tirer les rois, nous avons invité un prince de la galette. C'est un pâtissier normand passé par les grands palaces de la capitale. Avant de s'associer avec Christophe Felder en Alsace dans une jolie boutique qui s'appelle Les Pâtissiers, c'est Camille Le Sec qui est à la table des bons vivants ce samedi matin. Bonjour Camille.
Bonjour à vous.
Les Pâtissiers à Mutzig.
Tout à fait.
Et voilà, une belle boulangerie-pâtisserie sur la place de l'église.
Pâtisserie.
Oui, juste pâtisserie, absolument. Vous faites bien de préciser, vous êtes des vrais pâtissiers. Vous venez de sortir un livre qui s'appelle Galette avec donc Christophe Felder. C'est un hommage, hein, ce disque de pâte feuilletée rempli de frangipane, 50 recettes de galettes et puis surtout les explications pour réussir les bases, la pâte feuilletée et la crème. On va en parler. Vous en faites combien des galettes à peu près sur ce mois de janvier?
On fait à peu près 1800 galettes. Quoi.
Alors, on va vous aider justement à faire votre galette à la maison. Juste avant, on va revenir sur l'origine de la galette. C'est une fête païenne, Olivier Pouls.
Oui, c'est une fête à l'origine qui était romaine. On tirait effectivement entre les maîtres et les esclaves celui qui allait être le roi d'un jour. Ça permettait une espèce de mixité sociale étonnante. Et c'était évidemment au moment du solstice d'hiver pour faire revenir le soleil, d'où ce rond à l'époque.
Qui symbolise le soleil.
Qui symbolise le soleil, absolument. Puis c'est beaucoup plus tard que c'est la religion.
C'est au XIVe siècle qu'on s'est mis à tirer les rois. Et puis c'est après, la religion s'est emparée effectivement avec l'épiphanie. Mais ce qu'il faut préciser aussi pour nos auditeurs, c'est que la galette pâtissière qu'on déguste, au départ, elle n'était pas fourrée. Il n'y avait pas de frangipane. La vraie galette traditionnelle des rois, c'est simplement deux disques de pâte feuilletée assemblés. Il y a encore quelques pâtisseries qui font ça dans la maison Poilane à Paris. Mais c'était simplement deux disques de pâte feuilletée assemblés. Puis c'est la galette au nord et c'est la brioche au sud. Hein, attention.
Oui, et c'est pas toujours la même galette. Et puis il y a la galette franc-comtoise aussi. Je sais que ma compagne m'en voudrait beaucoup de ne pas en parler, mais c'est une autre galette.
Elle est gratinée.
Qui est à base, non, qui est à
de cocoyote.
Non. On aimerait bien.
De pâte à choux.
Pâte à choux exactement.
Et fleurs d'oranger.
Ah, ben voilà.
Ah, oui, d'accord.
Faisons le tour de la galette, c'est important. Alors, on a fait un sondage sur la page Facebook du groupe Les Bons Vivants. On a demandé à nos auditeurs combien de fois ils allaient en manger cette année et avec qui. Eh bien, 62% vont manger entre 2 et 4 fois. 30% en mangeront 5 fois et plus. Et 9% une seule fois. C'est vraiment une pâtisserie qu'on partage en général en famille et puis avec les collègues aussi, évidemment.
On tire les rois entre collègues, c'est un grand classique.
C'est ça qui est chouette dans la galette, c'est des périodes de l'année et hop, un week-end ou deux, on en profite et puis après... Hop,
on est à peine remis des réveillons que paf, on repart sur la galette. Vous la vendez combien la galette chez vous en pâtisserie à Mexique?
Une galette traditionnelle de 4 personnes, il faut compter 18€.
18€. Alors on va faire un petit tour des prix, tiens, justement. En grande surface et moyenne surface, on va trouver une galette pour 6 personnes aux alentours de 6€. Alors on va dire, bien sûr, c'est pas cher, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Mais c'est moins bon.
À quel prix?
Allons-y avec les huiles de palme, allons-y avec, évidemment, il n'y a pas de beurre, il y a des additifs, il y a des cochonneries. Donc si on peut passer son tour et aller chez son boulanger pâtissier qui en fait des bonnes, en général en France, c'est 12€ pour 4 personnes. Et dans la galette qui est dans votre livre, on s'est amusé à faire les comptes et les ratios, Camille Lesec. En prenant les ingrédients, ça revient à 11,50€ pour 8. Donc c'est quand même quelque chose d'accessible de faire du fait maison, c'est le cas de le dire. Et chez les grands pâtissiers, c'est un peu plus cher. On rappelle les ingrédients de base, tiens, d'une bonne galette, Camille Lesec.
Une bonne galette, une bonne farine, du beurre surtout. Un vrai beurre.
Pour le feuilletage.
Pas Normandie, en Alsace, bon, dans toutes les régions, en Charente aussi, tout ça, il y a des bonnes qualités de beurre.
Et une bonne frangipane, on va revenir sur la frangipane.
Une bonne frangipane avec des amandes, surtout, sélectionnées.
Alors, comment faire sa pâte feuilletée? Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, on va vous donner des trucs. Comment réussir la frangipane? Eh bien, on va faire le tour de la galette dans un instant avec Camille Lesec. Ne bougez pas, on revient dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Et pour se réchauffer aussi, la bonne solution, c'est de manger, bien sûr. La table des bons vivants, c'est jusqu'à 12h30. Et comment passer à côté de la galette des rois de demain, Laurent?
Eh oui, Justine, au cas où vous l'auriez oublié, ce dimanche, c'est l'épiphanie. On va tirer les rois et à la table des bons vivants, on aime la galette.
Et qui va sous la table des bons vivants, d'ailleurs?
Ah, ben on verra.
Et bien, il faut que quelqu'un... Ce
sera vous, tiens, ça vous apprendra.
Vous êtes le plus jeune, Olivier.
À la table des... Oui, c'est vrai, c'est le plus jeune qui va sous la table. À la table des bons vivants, on aime la galette, surtout quand elle est bien faite. Et on en parle avec notre invité, le pâtissier Camille Lesec, qui vient de sa belle pâtisserie Les Pâtissiers à Mutzig, une pâtisserie qu'il tient avec Christophe Felder.
Tout à fait.
Et ils viennent de sortir un livre consacré à la galette aux éditions de La Martinière, un livre magnifique, 50 recettes des rois de la pâtisserie à l'intérieur. Il y a la galette évidemment traditionnelle, il y a des galettes à la clémentine corse, pistache framboise, au coin, à la quetsche. Alors parlons de la pâte feuilletée déjà, Camille Lesec. Tout le monde en général se fait, tout un monde, c'est le cas de le dire, de la pâte feuilletée. C'est technique, il y a des tours, il y a des pliages.
C'est vrai que ça fait un peu peur.
Ça fait un peu peur. Hein.
Et c'est vrai que dans le livre, on a essayé d'expliquer au maximum pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que voilà, ça soit pour qu'on puisse se faire plaisir à la maison.
C'est quoi votre truc alors?
On a trois sortes de pâtes feuilletées. Et c'est vrai que pour moi, la meilleure, c'est le feuilletage inversé. Et c'est là qu'on vient enrober notre pâte de beurre. Et on vient faire nos tours comme ça.
C'est l'inverse, parce qu'au départ, effectivement, il faut expliquer qu'on fait une détrempe avec de la farine et de l'eau, et on emprisonne du beurre à l'intérieur.
Voilà, bon, ça c'est le feuilletage normal. C'est vrai que c'est assez simple à faire, c'est plus facile à travailler, mais quand même, si on veut avoir un meilleur croustillant, si on veut avoir un feuilletage bien fondant, bien croustillant, le feuilletage inversé, c'est quand même le meilleur.
Alors comment vous faites? Vous mettez le beurre à l'extérieur du mélange de farine et d'eau?
On enveloppe, on fait une belle abaisse, en fait. On fait un beau rectangle de beurre. On mélange déjà du beurre avec un peu de farine pour qu'il ait une certaine tenue. Et on vient mettre notre détrempe de pâte de ce rectangle de beurre. Et après, on vient replier, on vient emprisonner notre détrempe avec le beurre. Et avec notre rouleau, on fait nos tours de pâte feuilletée. Après.
Combien de tours, alors?
On fait 5 tours.
5 tours, voilà.
Ouais.
Et après, on laisse reposer, évidemment.
Et
aussi.
On fait 2 tours, on laisse reposer 20 minutes, on refait 2 tours. Mais c'est une petite technique, mais une fois qu'on a vu, c'est vrai que ça va tout seul.
Mais quelle récompense à la fin, quand même. Parce que ça n'a rien à voir avec une pâte feuilletée industrielle, aussi bonne puisse-t-elle prétendre être. Ça n'a rien à voir.
Surtout, ce qui est important, c'est quand on la cuit, les odeurs les odeurs du feuilletage à la cuisson. Là, moi, quand je suis arrivé, j'avais les galettes dans la voiture. C'est toute fraîche cuite de ce matin.
C'est magnifique. C'est ces belles odeurs de céréales, hein, de farine, parce que vous choisissez de très bonnes farines pour les faire. Alors, si on a la flemme de faire ce feuilletage, ce que je peux comprendre, il y a quand même deux, trois petites techniques. C'est d'aller voir son boulanger pâtissier, de lui commander à l'avance une pâte feuilletée artisanale. Ça marche quand même. Ouais. Et sinon, les pâtes feuilletées surgelées, sans additifs, sans conservateur, pur beurre. Moi, j'essaye, franchement, et je vous assure, comme on dit, ça fait la blague quand même.
Moi, c'est vrai qu'il y a des bons produits, mais...
C'est pas la même chose, on est d'accord.
Vous avez aussi une petite Rolls de la pâte feuilletée qui s'appelle les pâtes François, qui sont disponibles par internet. C'est des pâtons de 3 kg, c'est 18 euros. Et c'est facilement surgelable. Moi, c'est ce que je fais. Et du coup, ça me permet d'évacuer. Je suis désolée, Camille, mais je trouve qu'un feuilletage inversé, c'est quand même une organisation à avoir. Ça vous prend la journée. Alors que bon, l'avoir directement au congèle, c'est pas mal.
Exactement. Alors maintenant qu'on a parlé de la pâte feuilletée, abordons la frangipane. Hein. C'est vraiment la base, la garniture de la galette traditionnelle. Rappelons déjà, Camille Lesec, ce qu'est une vraie frangipane.
Une vraie frangipane, c'est un mélange de crème d'amande et crème pâtissière.
Voilà.
Donc on fait une crème pâtissière avec des vraies gousses de vanille bourbon. Et ça, c'est hyper important.
C'est parfumé, ça.
Et notre crème d'amande, on la fait avec des amandes. On broie nos amandes.
Et oui, c'est comme les farines. Attention, toutes les amandes et toutes les qualités de poudre d'amande ne se valent pas.
On les fait quand on fait le mélange avec la crème pâtissière, quand on fait notre crème d'amande. Et ça donne le maximum de goût dans notre crème. Et ça, c'est top.
Précisons que 80% du marché, c'est de l'amande californienne, qui est très consommatrice d'eau et pas du tout écolo. Ouais. Donc c'est super que vous puissiez sourcer en Europe, en effet. Ouais.
Combien de temps de cuisson, Camille Lesec ?
Le temps de cuisson, ça dépend de la taille des galettes, bien sûr. Mais pour une galette de 4 personnes, on compte entre 40 et 50 minutes.
Ouais. Et avec une dorure au jaune d'œuf, hein ?
On a une première dorure à l'œuf et on fait un deuxième coup de pinceau avec du jaune d'œuf.
C'est pour ça qu'elle est lustrée, elle est brillante. Vous nous l'avez apportée, c'est bien d'en parler, mais il faut qu'on vous fasse partager ça, amis auditeurs. Il faut qu'on goûte quand même. Hein.
Moi, je n'ai pas la fève. Hein.
Alors moi non plus, je n'ai pas la fève. Mais en revanche, j'ai le plaisir... d'une galette à la fois croustillante et terriblement moelleuse. Parce que souvent, la frangipane, elle est un peu sèche dans les galettes. Mais là, pas du tout.
C'est incroyable.
Elle est généreuse, cette couche de frangipane.
On ne fait qu'une bouchée, en fait. Et en même temps, on a ce croustillant, effectivement, de la pâte feuilletée qui vient se mélanger, se fondre avec la frangipane qui est moelleuse, qui est bien humide. C'est la qualité des amandes qui fait ça.
La qualité des amandes, ouais. Et on met aussi un soupçon d'orange confite aussi.
Il y a un petit côté agrume. Exactement.
Et ça lui donne une certaine rondeur. Et ça. Et dans notre frangipane aussi, qu'on parlait des amandes tout de suite, on met un peu d'amande amère. Mais les vraies amandes, pas l'arôme d'amande amère, des vraies amandes fraîches amères. Et on en met un certain pourcentage dans la poudre d'amande et c'est ça qui donne un coup de peps à la galette et qui donne un vrai goût.
La sert à température ambiante ou on la repasse un petit peu au four ? Qu'est-ce que vous préconisez, vous ?
À température ambiante, ça marche bien. Moi, j'aime bien. On la fait réchauffer.
Voilà, four à 180 degrés.
Un four à 180 degrés, quelques minutes. Et après, on la laisse revenir et on la mange tempérée.
Qu'est-ce qu'on boit avec la galette des rois, Olivier Pouls ?
On est en Alsace, on pourrait boire quelques très jolis vins alsaciens, pourquoi pas. Mais tout à l'heure, je vous parlerai de cidre, qui est quand même aussi le très bel accord classique. Et puis si on veut vraiment faire du champagne, parce que je sais que c'est aussi une tradition certains, prenez dans ce cas un champagne pas extra brut, prenez un champagne un demi-sec, légèrement sucré pour arrondir un peu.
Alors maintenant que vous savez tout sur la galette traditionnelle, on va vous donner des idées pour la customiser et la revisiter. Pourquoi pas la manger en version salée. Si on veut en manger une ou deux fois par semaine, c'est bien de varier les plaisirs. Et l'ami Jean-Luc Petit-Renaud ne sera pas loin. A tout de suite sur Europe 1.
L'épiphanie, c'est ce dimanche et à la table des bons vivants pour que tout le monde soit en sécurité et la même part pour demain, on s'entraîne. Et d'ailleurs, qui a la fève, Laurent ?
Eh bien oui, Justine, nous entraînons à couper la galette des rois pour demain. Il a la fève ! Olivier Pouls a la fève ! La couronne !
Voilà.
Mettez cette couronne tout de suite.
Fort.
Et vous savez que vous devez porter la couronne tout le mois de janvier où vous alliez. Hein. Donc, c'est obligatoire.
Elle est couleur d'Europe 1 en plus.
Oui, exactement. Belle couleur d'Europe 1, bleue et blanche. Camille Lesec, pâtissier et co-auteur de l'ouvrage Galette avec Christophe Helder, a plus d'un tour dans son livre pour varier les plaisirs. Il est notre invité. Alors c'est vrai qu'on a parlé de la galette traditionnelle il y a quelques instants. Et depuis quelques années, on trouve des galettes de toutes sortes, à la pistache, au poire, au chocolat, à la mandarine. Vous nous en avez apporté une, Camille Lesec, qui est délicieuse. Là, on vient d'en croquer tous une part. C'est une galette des rois à la clémentine corse, c'est ça ?
À la clémentine de Corse, ouais, qu'on fait confire nous-mêmes.
Mais comment vous l'incorporez alors, la clémentine, dans la garniture ?
En fait, on fait carrément un petit palais de frangipane et dessus un palais de confiture, enfin de marmelade de clémentine.
Ah, c'est la marmelade,
enfin
c'est,
ouais, c'est un petit confit de clémentine qu'on met par-dessus.
On trouve des morceaux un
petit
peu.
On trouve
aussi
des morceaux, ouais, parce qu'on prend nos clémentines, on les poche et puis après on les fait confire tout doucement, on les hache finement. Et après, on en met un vrai palais sur la frangipane pour avoir ce vrai goût de clémentine. Quoi. C'est pas juste quelques zestes qu'on met dans la frangipane.
On la sent vraiment bien.
Ah ouais, c'est très bon ça. Dans votre livre Galette, il y a pas moins de 35 recettes différentes. Galette nectar chocolat orange, galette aux noisettes, galette fondante, galette au marron aussi. C'est
galette
parfait.
Galette au marron, c'est la période. Là. En Alsace, on fait beaucoup de marrons. Là. On a les Mont Blanc, les torches au marron. Là. Pour Noël, c'est le gâteau de Noël aussi.
Ah oui, la torche au marron, c'est comme ça qu'on appelle le Mont Blanc en Alsace.
Ça aurait été dommage de pas faire une galette au marron, justement.
Et on n'oublie pas les brioches hein, qui sont présentes dans le livre, ouais. Parce que comme je le disais, dans le sud de la France, on fête l'épiphanie avec des brioches, de belles couronnes en brioche avec des fruits confits à la surface. Vous en faites aussi?
Et on en fait aussi, ouais. Les peaux d'orange, les peaux de pamplemousse, les peaux de citron, clémentine.
Combien de temps pour confire, par exemple, si on veut le faire? Vous le montrez dans le livre, justement.
Mais
c'est
pas très long, en fait.
Pas
ce qu'il faut, c'est suivant les agrumes, on prend l'écorce, on la fait blanchir dans de l'eau. Et le pamplemousse, par exemple, on le fait blanchir 7 fois pour enlever l'amertume.
Ouais, c'est ça.
À chaque fois, on enlève l'eau, on repart avec une
eau nouvelle. Et on repart avec de l'eau. Ensuite, on les fait confire dans un sirop de sucre avec de la vanille. Ou, si on veut encore le maximum de goût, par exemple les citrons et les oranges, le sirop, au lieu de mettre de l'eau, on met du jus d'orange ou du jus de citron. Et on laisse frémir nos écorces dans le sirop d'orange, le sirop de citron, une dizaine de minutes, et après on laisse reposer toute la nuit, tranquillement.
Quelques idées de galettes d'autres pâtissiers aussi, Olivier Pouls, c'est vrai que là, quand on fait le tour de France, on s'amuse à voir des merveilles un peu partout. Hein.
Bah, c'est comme les bûches, hein. Tout le monde doit faire sa galette, c'est quelque chose qui est devenu très tendance, des galettes créatives, des galettes originales, des galettes sucrées, salées. Il y en a une dont je voulais vous parler, c'est celle d'Emmanuel Rion, qui est meilleur ouvrier de France.
Qui est un glacier.
Et voilà, les champions du monde de pâtisserie de glace. Qui fait une galette un peu originale, pâte feuilletée, mais qu'on met au four. Et en réalité, elle recuit, la pâte feuilletée cuit, mais la glace à l'intérieur reste encore prise.
Ah, oui.
Et donc, on a une galette glacée et en même temps croustillante, assez originale.
Glace à quoi ?
C'est une crème glacée aux amandes.
Ah, c'est bien ça, avec la pâte feuilletée. Ouais. Elle sera comment demain pour l'épiphanie, votre galette des rois ? Vous allez déguster laquelle, Camille Lesec ?
Moi, j'adore celle au coin. Je la fais avec des coins sauvages. Et c'est un parfum extraordinaire. Parce que il y a plein de variétés de coins aussi.
Pâte de coin mélangée à la frangipane?
En fait, non. C'est comme pour la clémentine, on fait vraiment un palais de coin confit sur la frangipane.
Mais vous nous l'avez apporté, on l'a là.
Et elle est ici.
En train de la goûter.
Vous pouvez la déguster. Et c'est vrai que là, on fait pocher nos coins. Voilà, on fait une compote après. Et on met notre vrai palais sur la galette. Et c'est un vrai goût de coin sauvage. Et c'est un parfum. C'est quand même autre chose.
Oh, bah magnifique. Merci beaucoup d'être venu à la table des bons vivants, Camille Lesec. Je rappelle votre livre avec Christophe Felder, que vous saluerez de notre part. Galette, 50 recettes des rois de la pâtisserie aux éditions de La Martinière. Et ça coûte 35 euros. Et on a de belles recettes qui permettent de faire du fait maison accessible. Merci.
Surtout beaucoup d'amour.
Et beaucoup d'amour, exactement. Merci, Camille Lesec, d'être venu. Bientôt midi sur Europe 1. Alors, avant d'accueillir notre invité François Berléand, comédien bon vivant, c'est l'heure de retrouver Jean-Luc Petit-Renaud. Et après l'opulence des fêtes, nous sommes nombreux à nous engager à faire une diète. Et c'est vrai que c'est une promesse difficile à tenir, n'est-ce pas, cher Jean-Luc ?
Bonjour la compagnie des bons vivants. Oh là, je vous sens un peu petite mine aujourd'hui. C'est-à-dire, on sent qu'on a festoyé, qu'on a un petit peu dérapé très légèrement, parce qu'on a continué à faire la fête. Et c'est un peu ce virus qui est un virus national absolument délicieux, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas s'arrêter parce qu'il y a toujours un plat qui en pousse un autre, et puis il y a toujours celui que l'on aurait aimé goûter mais qu'on n'avait pas encore goûté. Alors on a peut-être envie de se mettre aussi au régime. Alors moi j'adore ça. Ça veut dire que chaque contemporain est là, droit dans ses chaussures. Il s'est remis à courir d'ailleurs, le garçon ou la fille, parce qu'il a l'impression qu'à ce moment-là, il a tout expurgé. À bas les bûches de Noël, à bas les volailles rôties, à bas les huîtres chaudes, etc., etc. Et puis que finalement, on se rend compte qu'il suffirait de 4 fois rien pour qu'il s'y remette. C'est le moment où on a peut-être encore, juste quelques jours, les cousins de Toulouse, la famille d'Alsace, on a ceux du sud-ouest qui sont là dans le coin, et on a envie de réouvrir une dernière conserve de cassoulet. une dernière conserve de saucisses confites comme ça, avec quelques pommes de terre. C'est quatre fois rien. On dit à tout le monde, c'est quatre fois rien. Et hop, ça redémarre et ça redérape. Et à demain le jogging et à après-demain la thalasso, et etc., etc. Elle n'est pas belle, la vie, quand elle débute comme ça en janvier, non?
Mais comment qu'elle est belle? Merci Jean-Luc Petit-Renaud, elle est magnifique la vie. Et vous avez raison, il ne faut pas gâcher, donc il faut se remettre au fourneau et manger tout ce que nous avons comme bonne conserve.
La meilleure résolution, c'est de ne pas en prendre.
Exactement, c'est ce que je dis toujours. Oui, oui. Et on verra tout à l'heure justement comment bien accompagner la galette des rois avec une belle sélection de cidre que vous avez faite pour nous,
voilà
Olivier
une belle
Pouce.
Résolution.
On se retrouve juste après la pause avec la chronique d'Anne-Laure Femme. Vous nous en ferez voir de toutes les couleurs avec des farines de légumes, Anne-Laure.
Oh, oui.
Et nous avons gardé une part de galette pour François Berléand qui va nous rejoindre dans un instant. A tout de suite sur Europe 1. Bon samedi matin.
Europe 1. Et vous êtes tous conviés, bon, pas en Amérique, mais à la table des bons vivants de Laurent Mariotte. Il y a déjà toute l'équipe et même un nouvel invité que vous connaissez bien.
Absolument, Justine. Toute la bande des bons vivants est au complet. Notre invité vient tout juste de s'attabler avec nous. Bonne année à tous, hein, si vous venez de nous rejoindre. Notre invité est le fils d'un papa russe arménien et d'une maman française. Il a construit sa personnalité d'acteur après que son père lui ait dit « Toi, tu es le fils de l'homme invisible ». Après de nombreux grands rôles dans le théâtre subventionné, il brûle les planches des théâtres et des plateaux de cinéma. Le 7e ciel, Ma petite entreprise, Mon idole, Les choristes, ça fait plus de 20 tant qu'il fait partie des comédiens préférés des Français, amoureux de la cuisine et du vin, c'est le bon vivant François Berléand qui est notre invité. Bonjour François Berléand.
Bonjour et bonne année.
Et bonne année.
Et bonne, année.
Et bonne santé, qu'est-ce qu'on vous souhaite?
La santé.
Hein, d'abord.
À partir d'un certain âge, avant, on dit bonne année, bonne santé, beaucoup de bonheur. Là maintenant c'est voilà, bonne santé au départ et puis après on verra.
Et puis il en faut de la santé parce que vous n'arrêtez jamais quoi. Cinéma, voilà. Théâtre, vous n'arrêtez jamais d'enchaîner. C'est quoi, c'est la gourmandise des beaux rôles?
Ouais, ben j'ai l'impression que sinon je meurs, donc je préfère en des projets.
Ah bah oui, travailler, on préfère oui, ça voilà. Aussi nous aussi.
Voilà, hein. C'est ça, absolument.
Vous serez au théâtre le 29 janvier d'ailleurs, au oui. Théâtre Édouard VII à Paris, avec voilà. Une nouvelle pièce.
Avec une pièce qui s'appelle Encore un instant, et mise en scène par Bernard Murat, avec Michel Larocque, Néa Belansky, et un garçon qui s'appelle Vinnie Dargo.
Et ben on viendra vous voir, parce que c'est toujours un plaisir de vous voir sur les planches, avec votre générosité, et puis votre tempérament. Vous faites partie de ces acteurs qui ont un univers, un style, un tempérament, François Berléand.
Ouais, en tout cas.
Là, ça s'est pas vu tout de suite quand vous l'avez répondu.
Non, non, mais j'ai un univers. C'est vrai, j'ai un univers.
Lequel,
j'en sais rien, mais j'ai un univers.
Mais oui, mais si, voilà. Et alors, en préparant l'émission, j'ai découvert que Josiane Balasko vous avait proposé de rentrer dans la bande du Splendide.
Ouais.
Vous avez refusé. C'était quoi? C'était la peur de manger les doubichous de M. Preskovitch?
Non, non, c'était pas ça. Oh, non, non, parce que c'était bien avant. Non, non, c'est que il fallait refaire tout le théâtre. Il fallait peindre le théâtre. Du Splendide, etc. Oui. Et donc, moi, c'est ce que je venais de faire. Pendant 2 ans, je faisais du théâtre subventionné, mais on n'avait pas d'argent. Donc, c'était subventionné par nous. Là, pour la première fois, on venait d'avoir une subvention. Et du coup, je ne vais pas peindre toute ma vie. Moi, je vais être comédien. Je ne vais pas être peintre. Donc, voilà.
Alors, on ne va pas vous faire goûter les doubichous de M. Preskovitch, mais on va vous faire goûter quelque chose de nouveau avec Anne-Laure Femme. Chaque semaine, elle s'amuse à tester des nouveautés et des tendances
vois ça.
Pour nous. Et oui. Vous avez testé pour nous de drôles de poudre de farine. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, Anne-Laure.
Je vais vous dévoiler en avant-première ma bonne résolution 2019. Laurent, c'est de toujours plus ajouter de couleurs dans mes assiettes, surtout pour appâter le fiston de 3 ans et demi, et ce sans passer par la case chimie. Oui. Et donc j'ai testé cette nouveauté très réjouissante qui s'appelle les poudres Green Dose, et ce sont des poudres qui s'utilisent comme des farines classiques dans les préparations aussi bien salées que sucrées.
D'accord, donc on voit que vos sachets sont avec nous, il y en a de toutes les couleurs, il y en a des roses, il y en a des blanches, des vertes.
Vous pouvez rendre un cloug à ces couleurs arc-en-ciel. Non, mais le principal intérêt en fait de ce produit, c'est de teinter les plats en se passant de colorants artificiels,
ouais, 100%
et
d'additifs
peu recommandables. Ouais. Voilà. Surtout, la composition des poudres Green Dose est très intéressante et assez inédite. C'est 70% de mélange de légumes et de légumineuses, ainsi que différentes farines, riz, maïs. Alors, par exemple, vous avez la potion rose, oui, que vous avez sur votre bureau, Laurent. Ça comporte des betteraves et ça va ajouter une couleur très très vive, par exemple, à une pâte à gaufre ou à une pâte à crêpes.
J'aimerais qu'on voit le regard de François Berléand
sur ces
farines
méfiant.
De couleur.
Non, je ne suis pas méfiant. Non, d'abord, c'est le package, comment on dit, le packaging est très réussi.
Oui, il est joli, effectivement.
Et puis maintenant on va goûter.
Alors, on peut en faire toutes sortes de choses. On peut en faire des gâteaux. Vous nous avez apporté des cookies, des petits sablés. Il y a des espèces de financiers.
Il y a aussi des crackers. C'est super bon en crackers.
Oui, c'est bon. Hein.
Donc, poudre de légumes.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Poudre de légumineuse. Bon. Qu'est-ce que je goûte, moi, tiens?
Là, vous goûtez un cake, je crois. À la poudre verte.
Épinards, courgettes. Ah oui, voilà. C'est bon, ça.
C'est un peu déroutant parce qu'on s'attend à voir quelque chose d'un peu plus sucré, d'une pâtisserie un peu plus réconfortante, et on a quelque chose qui est quand même très proche du légume.
Mmh. Oui. Ah.
On a vraiment ce goût de légume.
Bah oui, mais c'est ça qui est bien. Et en même temps, il y a quand c'est écrit carottes, courges et pois chiches.
Oui, c'est pas c'est chocolat, poire et framboise.
Il y a ça aussi. Hein,
quand même, on oui, est quand en même... gros, on est prévenu.
Moi,
ouais.
Et du côté des nutriments, Anne-Laure, est-ce que ceux des légumes et des légumineuses sont conservés dans ces pots? Il y a toujours des bonnes choses?
Alors oui, vous avez protéines, fer, magnésium, zinc, fibres qui sont conservées grâce à une déshydratation des légumes. Et ces légumes, d'ailleurs, je précise, ne sont pas épluchés pour garder encore plus de nutriments issus de la peau.
Donc ils sont bio. Hein, quand on garde
tout
la peau,
bio,
c'est bio. Hein.
C'est sans gluten aussi, je le précise. Et donc, vous avez une déshydratation des légumes et légumineuses par air chaud à 80 degrés en moyenne.
D'accord.
Donc du coup, vous avez des nutriments tout à fait épargnés. Après, c'est plutôt du côté de chez vous, une fois que vous utilisez les pots de Green Dose, qu'il faut voir si vous sacrifiez une partie des nutriments
et oui, à la
en
cuisson.
Utilisant... Voilà.
Bah, c'est super bon.
Combien ça coûte, Anne-Laure Femme?
Alors, c'est là que le bas blesse. C'est 25 euros le kilo. Vous allez me dire, c'est pas un prix anodin, ça n'a rien à voir qu'une farine classique.
Mais c'est cher.
Mais à mon sens, l'expérience en vaut la peine et surtout, c'est un produit que vous pouvez doser par petite quantité qui parfumera vraiment agréablement.
Oui, il ne
faut
pas en mettre beaucoup.
Exactement, vous n'avez pas à remplacer vos farines uniquement par les poudres Green Dose.
Ça coûte cher quand même.
Franchement, le produit, je le trouve parfait pour réveiller des recettes un peu trop classiques et pour familiariser un enfant en bas âge au goût des légumes et des légumineuses. C'est vraiment sympa.
Non, mais en tout cas, là, ce que je viens de manger, ça, c'est très, 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 très bon.
Vous êtes sur le coup, hein, François Berlin.
Oui, oui,
ouais, c'est bien.
Oui, oui, mais
bravo.
J'aime bien les nouveautés.
Vous retrouverez eh bien, tout ça, évidemment, toutes les références sur notre site europe1.fr. Ça s'appelle Green Dose et c'est 6,95€ le sachet de 280 grammes. Merci beaucoup, Anne-Laure. C'est bientôt l'heure de passer à table avec un plat de saison, François Berléand. Un beau représentant de notre gastronomie, c'est le gratin dauphinois.
Oui.
Le vrai. Vous aimez ça?
J'adore ça.
Eh bien, on va en manger, hein, dites donc. On le sortira du four juste après les titres du journal de la mi-journée de Fabienne Lemoyle. À tout de suite.
Allons-y, on profite. 11h30.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Il est midi sur Europe 1. Bonne année à tous. Hein, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble depuis 11h. Et pour la dernière demi-heure, le comédien bon vivant François Berléand est notre invité. Tout se passe bien, François?
Je vais grossir.
On vous a fait goûter. On vous a fait une petite purée. Tiens, vous allez goûter et nous dire ce que vous en pensez. Vous êtes au Théâtre Édouard VII à Paris à partir du 29 janvier dans une pièce de Fabrice Roger Lacan. Encore un instant, c'est le titre de cette pièce. C'est une belle histoire d'amour et d'humour hein, entre une actrice adulée et son mari metteur en scène, c'est ça?
Voilà, son mari metteur en scène. Et puis en même temps, c'est une femme qui est attirée par un jeune garçon de 22 ans, qui est le meilleur ami de leur fils, et un auteur de théâtre qui lui propose sa dernière pièce. Un auteur à succès. Donc voilà, cette femme est très aimante. Voilà, il y a un petit coup de théâtre,
oui.
On ne peut pas trop en parler.
Amour
mais...
et humour, hein, on ne va pas tout raconter, voilà. Exactement. Ah. Vous suivez un régime particulier avant de monter sur scène? On fait attention à ce qu'on mange? On mange plutôt léger avant et un peu plus après? Comment ça se passe?
Ah bon, moi je ne mange pas avant, je soupe après le spectacle, je ne peux pas...
Le fameux souper.
Oui, je ne peux pas ingurgiter le moindre aliment avant de jouer. Ça ne passe pas?
Ça ne passe pas.
Oui, le trac.
Vous avez encore le trac?
Oui, toujours.
Ah oui, toujours. Alors, pour combattre le trac, je vous ai fait une petite purée.
Et alors, c'est ça, je n'aurais pas...
C'est un légume que vous adorez, je crois, c'est le panais.
Ah, c'est le panais.
Vous
bah,
n'aimez pas ça?
C'est bon, alors.
Mais finalement.
Mais oui, on m'a dit qu'il n'aimait pas le panais.
Non, mais moi non plus, je ne l'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il a mis un truc dedans qui le rend un peu plus sympathique.
J'ai mis de la poire. Purée de poire et panais.
Ah, c'est ça, voilà, parce que c'est sucré, tout à coup, je me disais, mais... Ça a le goût de céleri, mais céleri sucré.
Voilà, c'est un peu ça. C'est vrai que ça ressemble un petit peu au céleri avec ce côté anisé, citronné, avec une viande rouge, une viande blanche. Essayez cette purée de panais, c'est vraiment fastoche.
Ah oui, là, c'est étrange. Parce que moi, je dois dire, j'ai un problème avec les légumes oubliés.
Voilà. Vous pensez que si on les a oubliés, c'est qu'il y a une bonne raison?
Voilà, c'est qu'il y a une très bonne raison. Et je dois vous dire qu'un jour, je dînais dans un grand restaurant de légumes oubliés avec Claude Chabrol. Et il avait dit, on comprend pourquoi les oublier. Et c'est vrai que c'est pas toujours très bon.
Mais moi, je suis pas d'accord, j'adore ça. Les panais, les topinambours, les rutabagas, bien confits, bien rôtis, avec une huile d'olive, des épices.
Ah, voilà,
et tout
avec
ça.
Autre chose. Voilà,
ah,
ça,
oui, il faut les rehausser, bien sûr. Ah, bah oui.
Une côte de bœuf.
C'est ça.
François Berléand, vous êtes un bon vivant, vous êtes aussi un cordon bleu, hein. Vous aimez cuisiner, vous venez de faire un gratin encore il y a quelques jours d'ailleurs.
Oui, je fais des gratins de tout, j'adore le gratin et j'adore faire du gratin sans fromage.
Alors on va se mettre au gratin justement, et un gratin emblématique de notre cuisine française et nationale, n'est-ce pas ma chère Marion Sauveur, c'est le gratin dauphinois.
Et oui, sans fromage également
sans
d'ailleurs.
Sans fromage, ah oui malheureux, attention on ne plaisante pas avec le gratin dauphinois, de belles pommes de terre, on va vous parler de toute l'importance du choix des ingrédients dans un instant.
Là pour le coup.
Oui. Ah oui c'est important, mais on va revenir sur l'historique avant parce que c'est un plat qui a une histoire Marion.
Et oui, et on a parlé en fait du gratin dauphinois pour la première fois à Grenoble en 1788.
C'est sa patrie.
Au tout début voilà, de la Dauphiné. Révolution française, c'est en fait le duc de Clermont-Tonnerre, lieutenant général du Dauphiné, qui a en fait retiré ses troupes pour éviter un massacre au tout début de la Révolution. Et pour regonfler en fait le moral des troupes, il a offert un repas aux officiers de Gap. Et quel plat ? Eh bien, le gratin dauphinois, et qui est devenu, grâce à lui, donc le gratin dauphinois.
Et ben voilà, c'est un plat qu'on adore faire, c'est un vrai plat de saison, de belles pommes de terre à chair ferme. On peut prendre de la Charlotte, on peut prendre de la Mona Lisa, de la Belle de Fontenay, on peut utiliser même différentes variétés de pommes de terre. Vous êtes allé voir un chef cuisinier qui a fait du gratin dauphinois un de ses plats fétiches.
Et oui, hein, justement, je suis allée à Grenoble, à l'Inattendu, chez Alexis Busseau. Et donc, on a fait ensemble cette recette de gratin dauphinois.
Alors, il y a une technique particulière parce que la tradition veut qu'on assaisonne entre chaque couche de pommes de terre. Écoutez bien, lui, il fait différemment.
On a nos pommes de terre qui sont dans l'eau, l'ail qui est haché, la noix de muscade, la crème. Alors, nos grands-mères frottaient le plat au navet d'abord et après à l'ail. Moi, je le frotte à l'ail, tout simplement. Le secret, c'est de prendre la crème. Vous la versez dans une casserole. Et on va mettre le sel, l'ail et la muscade. Et on va la faire chauffer.
Le secret est dans l'infusion de la crème et de tous les ingrédients, sauf les pommes de terre, du coup.
Alors, il faut bien couper les pommes de terre et pas les doigts. Hein. Ça, c'est la taille parfaite.
Allez, 3-4 mm, effectivement. Ouais. Donc là, on a placé les pommes de terre dans le plat.
Et après, je verse ma crème dessus, chaude. Vous voyez, qui est très onctueuse.
À hauteur des pommes de terre.
Bien, un petit peu remué, hein, histoire de... Et puis d'aplatir le gratin, pour qu'il y ait des pommes de terre de partout dans le plat, que ça soit bien régulier. On ne met pas de gruyère, voilà. Ça, je vous l'assure. Et c'est la crème hein, qui va complètement gratiner avec l'amidon. On le met dans le four, préchauffé à 150 degrés.
Combien de temps ?
Une heure.
Ça y est ? Le gratin est cuit. Il a une jolie couleur dorée. Hein.
Excellent. Gourmand et parfait.
Et comment qu'il est parfait ? On est en train de le déguster parce que vous l'avez fait tel quel, Marion Sauveur.
Et oui,
c'est
je l'ai reproduit hier soir juste pour vous.
Oh, c'est bon ça. Alors c'est vrai que moi je vais revoir ma façon de faire. J'assaisonnais entre chaque couche, mais là le fait de bien assaisonner la crème comme il le fait.
Voilà, c'est ça, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, François
Berléand ? C'est très, 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 très bon là.
Il est bon, hein ?
Ah oui, c'est parfait.
Ah, il est bien gratiné. Une heure à 150 degrés. Vous retrouverez la recette évidemment sur Europe1.fr. Qu'est-ce qu'on boit avec le gratin dauphinois, Olivier Pouls, avant que vous terminiez votre quatrième part ?
Oui. Je peux parler la bouche pleine ici. Hein,
mais c'est la seule émission où on peut.
Alors, le gratin dauphinois est souvent un accompagnement, donc on va plutôt se tourner vers la viande ou le poisson qui va l'accompagner pour choisir le vin. Mais si, d'aventure, vous décidiez...
Mais moi, le soir, j'adore faire le gratin dauphinois salade verte. J'adore
exactement,
ça.
Exactement, ça peut parfaitement marcher. Avec ce côté crémé, avec ce côté gratiné, avec votre salade verte, un vin blanc, évidemment. Et puisqu'on était à Grenoble, je resterais bien dans un vin blanc régional, un vin blanc de Savoie, par exemple, un petit peu tonique. Un chignin bergeron, relativement jeune, et avec le côté crémé et l'acidité, ça devrait marcher.
Et ben voilà, merci Olivier Pouls. Ne bougez pas, on revient tout de suite avec notre invité François Berléand et nous répondrons aux questions que vous avez posées sur le répondeur des bons vivants au 3921. Vous le savez, hein, ce numéro attend vos appels tout au long de la semaine. A tout de suite sur Europe 1.
La table des bons vivants, c'est jusqu'à 12h30 avec Laurent Mariotte sur Europe 1.
Soyez les bienvenus si vous venez d'arriver et la bonne année hein, de la part des bons vivants. Nous sommes attablés en compagnie de François Berléand, comédien et amoureux de la bonne chère. Vous serez au théâtre Édouard VII à partir du 29 janvier, François, dans la pièce Encore un instant. Une belle comédie dans laquelle on va vous retrouver. Mais en attendant, on parle cuisine, on parle fourneau. Vous êtes un fin gourmet depuis l'enfance, hein, on peut dire ça.
Ah bah, j'avais une maman qui était cordon bleu, donc... Et j'adore faire la cuisine.
Mais oui, c'est ça.
Je la fais moins bien qu'elle parce que. Voilà,
on parlait du gratin dauphinois que nous avons dégusté avec Marion Sauveur. Tenez, venez Marion, vous êtes à côté. Dites-nous les ingrédients que vous avez mis dans le gratin, les quantités, qu'on rigole un petit peu, pourquoi il est si bon.
J'ai mis 500 grammes de crème pour 1 kg de pommes de terre.
Ah, voilà, voilà, c'est ça qui fait ça.
C'est ça qui vous a plu, c'est François Berléand.
Oui, oui. Hein, avec pas mal de muscade quand même aussi.
C'est ça
et
aussi,
de l'ail, beaucoup d'ail.
Il y a beaucoup d'ail.
C'était bien. Vous êtes engagé d'ailleurs dans la restauration parce que vous êtes le parrain des maîtres restaurateurs.
Absolument, je suis un des parrains des maîtres restaurateurs. Oui, tout à fait. Un des parrains des maîtres restaurateurs. Oui, c'est une association qui est formidable parce que voilà, ce sont les gens qui font encore la cuisine. Parce qu'il y a quelques restaurants quand même qui existent où il n'y a pas de cuisine.
Il y en a beaucoup, malheureusement, voilà. Où on a des plats qui arrivent sous vide, qui se réchauffent. Et on va le redire, tiens, à nos auditeurs, méfiez-vous des cartes à rallonge dans les restaurants. Quand vous voyez que le gars, il a de tout, toute l'année, du thon, du saumon, du gigot et des tas de choses.
De c'est... la pizza, des nems. Voilà.
C'est très compliqué.
Faites attention. Voilà.
C'est très, très compliqué.
Donc, quand vous avez maître restaurateur, c'est vrai que... En général, vous passez un bon déjeuner ou un bon dîner.
On passe un moment. C'est des gens qui aiment faire la cuisine et qui sont très attentifs aux soins et à l'achat des produits parce qu'ils travaillent en général avec la saison et en mode local, comme on dit. Voilà. Alors, c'est l'heure de répondre à vos questions au 39-21. Vous le savez, agriculture, alimentation, recettes de saison. Vous posez vos questions et on vous répond. On va commencer par une question de Jérôme.
Oui, bonjour, Jérôme de Brest. Je voulais savoir s'il fallait saler l'eau des pâtes pendant la cuisson. Voilà, je vous remercie. Bonne émission à vous.
Alors, on va vous répondre à l'unanimité.
Oui, bien sûr.
Alors, il faut la saler, non pas pour modifier le point d'ébullition, ce que beaucoup de gens ont cru à un moment, en se disant que les pâtes allaient cuire plus vite parce que le sel modifiait le point d'ébullition, etc.
Non, c'est pas ça.
Les quantités sont tellement faibles de sel dans l'eau que ça ne touche à rien. C'est simplement pour les assaisonner.
Pour les assaisonner.
Ben oui, parce qu'elles vont boire l'eau et l'eau étant
très
salée,
important.
Elles vont se saler elles-mêmes. Sinon, on n'arrive plus à les saler. Si on sale après, le sel glisse sur les pâtes et il s'en imprègne plus.
Alors, sur la page Facebook des Bons Vivants, on a une question de Sophie, une question de saison, François Berléand. Vous allez y répondre, tiens.
Ah bah
ça vous apprendra. Comment éplucher les topinambours?
Alors, je n'en ai aucune idée, mais alors absolument aucune idée, aucune idée.
Avec
un épluche topinambour.
Comme pour le gingembre, moi je prends une cuillère pour quand vous avez un topinambour qui est recouvert un peu trop de boursouflure, pour les contourner.
Et il est noueux le topinambour. Hein.
Et oui, parfois c'est pour ça qu'il faut le choisir un peu plus lisse, c'est plus pratique quand vous devez en débiter plein.
C'est pas facile toujours. Hein.
Mais une petite cuillère, ça peut être pas mal.
Alors la petite cuillère, c'est un truc. Sinon, moi je vous préconise effectivement de les frotter comme il faut avec une brosse à légumes. Il faut toujours avoir une brosse à légumes à côté de l'évier. On le frotte comme il faut et il n'y a pas besoin de l'éplucher. Ensuite, il sera bien nettoyé. Ça marche comme ça. Et si on veut vraiment l'éplucher, on le cuit à l'eau bouillante. Hein. Ça se cuit comme la pomme de terre. Départ à froid, c'est la même chose. Et une fois qu'il est cuit, on l'épluche tout simplement et la peau vient tout seul. Voilà, Sophie, sur la page Facebook des Bons Vivants.
Sinon, il y a l'épluche topinambour. Hein.
Oui, que vous êtes en train d'inventer.
Voilà, absolument.
Hein, c'est ça. Mais il faut déposer le brevet vite fait. Hein.
Oui,
attention.
Vite fait, oui.
Et une autre question au 39-21 de Nadine.
Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, Nadine d'ici les Molineaux. Voilà ma question. En cette période où on essaye de consommer local pour protéger la planète, je me demandais que penser des fruits exotiques, des mangues, des litchis et autres fruits, ou légumes d'ailleurs, dont on connaît la provenance et dont on connaît l'empreinte carbone. Donc merci pour votre réponse, je vous souhaite une belle émission à tous. Au revoir.
Merci Nadine. Alors ça, c'est une vraie question.
C'était une question pour l'ami Candebord.
Oui, alors Yves Candebord serait là, vous direz oh, bon, on n'achète pas. Hein, on n'achète pas de mangue, on n'achète pas de litchi, on n'achète pas d'avocat, on n'achète pas rien. Alors nous ne sommes pas d'accord, effectivement. Moi, je pense qu'à partir du moment où ce n'est pas cultivé chez nous, effectivement, faire venir des cerises du Chili au mois de février, c'est complètement débile, ou des fraises de l'autre bout de la planète. Mais les mangues, les avocats, les bananes, ça correspond à une économie aussi dans ces pays-là. Donc on va aussi déstabiliser une économie locale. Donc moi je pense qu'il faut en manger, mais faire attention à la provenance quand même. Choisir de l'équitable par exemple.
Et encore plus équitable, Laurent, vous aurez des mangues par exemple qui viennent de Sicile. Vous commencez à avoir des agriculteurs très ambitieux qui trouvent le moyen de cultiver ces fruits a priori exotiques dans des terres européennes. Donc ça aussi, il faut bien s'informer.
Vous faites attention à ça quand vous faites vos courses, vous ? Non.
Je dois vous dire non. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup les litchis. Donc les litchis, on peut les manger qu'à cette période de la saison.
Exactement.
Et effectivement, ils viennent de pays exotiques.
Et le meilleur étant le litchi branche, qui lui voyage directement voilà, par avion pour arriver frais, qui est beaucoup plus cher que
voilà,
l'autre,
donc c'est
qui voyage dans des bains de soufre hein, pour le préserver voilà. Justement.
Alors, pour le coup, je n'en prends plus. Voilà. Je mange plus de litchi parce qu'à cause du soufre.
C'est dingue. J'ai poli François.
Je mange plus de litchi. J'adore ça, mais je mange plus.
Mais pas de fraises en hiver, quand même.
Ah non. Ah non. Voilà. Mais là, moi, attention, les tomates, j'en mange pas.
Voilà, on respecte la saison.
Voilà, là, je respecte la saison pour tout ce qui est français, quoi.
Merci, chef Berléan.
Voilà.
Et restez avec nous parce qu'on va vous découvrir justement de l'autre côté de la fourchette, juste après la pause, avec le questionnaire des bons vivants. A tout de suite sur Europe 1.
Et on en a déjà beaucoup appris depuis 11h à la table des bons vivants, mais il en reste encore un peu sous le coude de Laurent Mariotte, surtout qu'on n'est pas prêt de débarrasser parce que la table est vraiment bien dressée aujourd'hui, Laurent.
La table est toujours bien mise hein, avec notre invité François Berléan à l'affiche de la pièce Encore un instant au Théâtre Édouard VII à Paris à partir du 29 janvier. On va découvrir François vos coups de fourchette dans un instant grâce au questionnaire des bons vivants. Mais juste avant, c'est l'heure de la chronique d'Olivier Pouls. C'est les 2 minutes du vin habituellement, mais là on les a rebaptisés les 2 minutes du cidre. Finalement, c'est une boisson méconnue et galvaudée parfois, Olivier Pouls.
Bah, comme beaucoup, vous savez qu'on a un peu l'image du cidre industriel qu'on trouve en grande surface et qui n'a finalement de cidre que le nom. D'un point de vue des saveurs, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais il y a dans l'univers du cidre, qui est d'ailleurs très proche de l'univers du vin, parce qu'il y a beaucoup de parallèles, des producteurs de cidre vraiment remarquables qui font des cidres de caractère. Et là, je refais un parallèle avec le vin. On parle de notion de terroir, bien sûr, dans le vin, mais on parle aussi de notion de terroir dans le cidre.
Alors, ils sont principalement bretons et normands, les terroirs du cidre. Hein, les connaît.
Oui, les appellations d'origine protégée du cidre, hein, cidre de Pays d'Auge, de Cornouailles ou du Cotentin. Mais vous avez des très bons producteurs de cidre en Champagne, dans le nord de la France, même au Pays Basque, figurez-vous.
Moi, j'adore le Pays Basque. Le cidre du Pays Basque, que vous le connaissez ou pas ?
Non, parce qu'on a le vin du Pays Basque.
Il faut goûter le cidre.
Qui n'était pas recommandé il y a très longtemps, mais qui maintenant, il y a des très très bons...
Oui, comme les Languedocs, l'Irouléguy a fait de beaux progrès. Et il y a de beaux cidres, il y a plein de cidreries dans le Pays Basque.
Je ne savais pas qu'il y avait du pommier dans le Pays Basque.
Dans l'arrière-pays. C'est un cidre plus rustique.
Oui, peut-être un peu plus rustique. Plus amer. Donc ça démontre bien cette notion de terroir. Les variétés de pommes qui rentrent dans la composition des assemblages sont importantes, mais aussi cette notion de sol, de climat qui va donner au cidre des goûts un petit peu différents.
Et puis autrefois, nos grands-parents, dans toutes les fermes, faisaient du cidre. On faisait du cidre à la maison avec les pommiers du verger. Comment on reconnaît un bon cidre, Olivier Pouls ?
Ben là encore, plutôt que d'aller acheter du cidre en grande surface, on va soit chez son caviste, parce que de plus en plus de cavistes aujourd'hui vendent du cidre, c'est assez tendance. Et puis on peut aller évidemment voir les producteurs. On choisit un cidre de producteur, quelque chose qui est fait non pas en quantité industrielle, mais avec quelqu'un qui défend son terroir et son savoir-faire. Et là, je vous en ai apporté un que je trouve absolument remarquable et qui va vous démontrer deux choses en plus. Alors celui-ci, ce n'est pas un cidre en AOP, c'est le cidre d'Éric Bordelais, ancien sommelier d'Alain Passard.
Exactement.
Qui a hérité de magnifiques vergers familiaux. Ouais. C'est la Rolls du cidre. Et figurez-vous que ce cidre d'assemblage de plus d'une dizaine de variétés de pommes différentes est un cidre qui a vieilli. Je l'ai gardé dans ma cave pendant 5 ans, c'est un cidre de 2013. Et vous voyez la complexité qu'on a dans ce cidre. C'est absolument incroyable. Ça vieillit aussi bien que des grands vins.
Et une belle longueur en bouche. Vous en pensez quoi?
Non, mais c'est vrai,
François Berléan.
Moi qui n'y connais strictement rien en cidre.
On est d'accord.
Ah oui, c'est très très bon.
Alors, combien ça coûte ça?
Alors ça, c'est un cidre évidemment un peu plus cher. On va dire qu'un bon cidre, entre 8 et 10 euros, on trouve absolument ce qu'il faut.
Ouais.
Et là, pour cette cuvée haut de gamme qui s'appelle le cidre Argelette de chez Éric Bordelais, il faut compter 20-25 euros, ce qui est toujours moins cher que du champagne.
Incroyable.
C'est l'heure de mieux découvrir et de mieux connaître notre invité, François Berléan, de l'autre côté de la fourchette. Vous êtes prêt, François?
Allez,
c'est parti. Bah, dis donc, cachez votre enthousiasme. C'est parti. Le questionnaire des bons vivants. Alors, le goût de votre enfance, François?
Alors, c'est la cannelle, bizarrement. Ah. Oui, la cannelle. Alors, ma mère faisait une tarte à la cannelle qui s'appelait la Sechen. Alors, s'il y a des auditeurs qui connaissent ce mot-là, qu'ils appellent immédiatement. Ma mère avait un père belge. Et donc, du côté de Verviers, on faisait cette tarte, qui est une tarte avec de la pâte feuilletée, dessus de la crème. Et sur cette crème, il y avait énormément de cannelle, du sucre roux, du sucre glace, et elle mettait ça dans le four, et c'était extraordinaire.
Ça part bien, votre histoire. Votre plus beau repas, François Berléan?
Alors voilà, c'était chez les frères Trois Gros. À l'époque, ils étaient deux.
À Rouen.
Et j'étais en tournée, je gagnais très très mal ma vie, mais j'étais déjà fin gourmet, très porté sur les bonnes tables. Et il se trouve que j'avais fait beaucoup d'économies sur mes défraiements. Et je m'étais dit, je vais me payer non seulement un repas chez Trois Gros, un déjeuner, mais en plus, je vais me passer la nuit chez eux.
Ah oui.
Et le petit déjeuner déjà était grandiose. Et le déjeuner, c'était mais exceptionnel. Et il y avait l'escalope de saumon à l'oseille qui était le plat
classique. Qui revient, que Michel Trois Gros, qui était avec nous il y a 15 jours, est en train de remettre au goût du jour à la carte.
Ouais. Et ensuite, je me suis dit, moi, quand j'ai dû payer l'addition, enfin, quand j'étais invité par eux, en disant, voilà, c'est formidable pour nous d'avoir un jeune homme comédien qui aime la cuisine, qui vient tout seul au restaurant.
Ah oui.
Voilà, on vous invite avec plaisir. Et pour moi, c'était le moment le plus magique de ma vie, de toute ma vie. Ça a été un moment où j'étais très, très ému de ce geste absolument exceptionnel de ces gens-là.
Quel plan mèneriez-vous sur une île déserte, François Berléand ?
Alors, c'est-à-dire que je resterai combien de temps ? C'est ça le problème. Sur l'île déserte.
Très longtemps.
Oui, alors des coquillettes. Voilà, je vous explique quelque chose. Non, mais j'étais dans les pays communistes, donc il y a du temps du communisme, etc. Donc c'était en 88. Et il y avait rien, on était en Pologne, et il n'y avait rien à manger, mais rien à manger. C'est-à-dire c'était des pommes de terre tout le temps. Et à un moment donné, on a réussi à avoir du caviar à des prix défiant toute concurrence. Et donc on avait 5 kilos de caviar, mais 5 kilos de caviar.
Eh ben dites donc,
c'est
à
beaucoup,
la louche, hein,
5
alors.
Kilos de caviar. À la louche, voilà. Et au bout de 3 jours, plus personne ne pouvait manger du caviar parce que c'était... Il y en avait marre, quoi. C'est des goûts très forts, etc. Donc si je vais dans une île déserte, je prends la chose qui a le moins de goût possible.
Eh oui, un goût neutre.
Goût neutre, coquillette. Voilà, pour être sûr de ne pas me lasser.
Et vous pourrez faire des sauces aux poissons, par exemple.
Voilà, absolument. Hein.
Quel est votre mot préféré en cuisine ?
À table.
Ah bah oui,
ouais.
C'est un mot qu'on aime aussi. Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Alors, je mettrais vous, cher ami, Pierre Arditi, Olivier, par exemple, avec grand plaisir. Des gens qui connaissent le vin, parce que j'ai une très belle cave.
Donc je suis mise de côté, François. Voilà. Je suis très vexée, je vais bouder dans
un coin.
Le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que moi j'ai une cave depuis les années 78. J'ai eu des très belles années dans ma cave. À chaque fois que je faisais des dîners à la maison, j'étais avec des gens qui aimaient profondément manger, mais qui ne connaissaient rien au vin.
Et qui n'appréciaient pas.
Voilà, qui n'appréciaient pas. Et je voudrais dire aux auditeurs, c'est très important quand on boit une gorgée de vin, la garder longtemps dans la bouche. Voilà, puis après de l'avaler.
D'avaler.
Mais de voir, voilà, il faut goûter le vin.
L'expression
dans le palais. Et les gens ne savent pas, les 95% des gens ne savent pas boire du vin. Ils boivent comme ça, puis après, qu'est-ce qui se passe ? Fermer la bouche et garder ça, je sais pas, 5 secondes, 6 secondes en bouche pour savoir ce que c'est que la longueur dans le palais, le machin, etc. C'est très important. Donc, je sais qu'avec François-Xavier de Maison, avec Arditi, avec vous...
On sera ravis de venir.
Voilà,
on viendra.
On pourra boire et déguster vraiment des vins.
Et c'est une bonne buveuse, Anne-Laure Femme aussi. Vous verrez,
voilà.
Elle vous montrera qu'elle connaît bien les flacons.
Très bien.
Le mot de la fin, FIM, François Berléand.
On a bien mangé, non ?
Oui, on a bien bu. Merci beaucoup d'avoir été à la table des bons vivants, François Berléand. Je rappelle votre actualité, comme on dit, vous êtes au Théâtre Édouard VII à partir du 29 janvier dans la pièce Encore un instant. Panais, galette des rois, gratin dauphinois, les recettes de l'émission vous attendent sur europe1.fr. C'est le week-end, hein, François, faites le marché, la cuisine et le reste aussi, n'est-ce pas ? Et n'oubliez pas de tirer les rois demain.
Oui.
Bon week-end, Justine.
Bon week-end, Laurent, et bonne galette. Alors, en profitez bien, on vous retrouve samedi prochain à 11h. En attendant, rendez-vous sur europe1.fr pour écouter cette émission et les autres aussi.